et c'est l'heure du journal présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. Des milliers de plaignants pour l'un des plus grands scandales sanitaires français. Le procès de l'affaire du Mediator s'est ouvert aujourd'hui à Paris. Les laboratoires Servier et l'agence du médicament sont appelés à rendre des comptes. Un procès suivi par Florence Turme. Avec Tara Schlegel, nous verrons que la loi encadre désormais les relations entre les groupes pharmaceutiques et les professionnels de santé, avec l'objectif d'empêcher les conflits d'intérêts. Vous avez volé mes rêves et mon enfance. Greta Thunberg interpelle les dirigeants mondiaux réunis à New York pour le sommet sur le climat. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron s'occupe de l'Amazonie. Le reportage de Christian Chéneau. Au Maroc, des femmes se mobilisent pour dénoncer les lois qui pénalisent les relations sexuelles hors mariage ou bien l'avortement. Plusieurs centaines d'entre elles se déclarent hors la loi dans un manifeste. Les précisions de Claude Guibal. En France, le gouvernement réduit les exonérations fiscales dont bénéficient les retraités qui ont un emploi à domicile. Les explications de Catherine Pétillon dans cette édition. 9 ans après la révélation du scandale du Mediator, le procès des responsabilités présumées s'est ouvert aujourd'hui devant le tribunal de grande instance de Paris. Sur le banc des prévenus, les laboratoires Servier et l'agence du médicament. Plusieurs de ses membres sont mis en cause pour leur lien avec le groupe pharmaceutique. En France, 5 millions de personnes ont utilisé le Mediator jusqu'à son retrait du marché il y a 10 ans. Selon une expertise judiciaire, cet antidiabétique pourrait être à l'origine de 2100 décès à long terme. Et de fait, dans ce procès, les avocats des parties civiles représentent des milliers de plaignants. On retrouve au palais de justice de Paris Florence Thion. Bonsoir.
Bonsoir.
Florence, à l'ouverture de l'audience cet après-midi, la présidente du tribunal a posé les enjeux de ce procès hors norme, pour reprendre l'expression consacrée.
Oui, depuis l'ouverture de l'information judiciaire, on compte 5 morts parmi les prévenus. Ils sont 10 aujourd'hui en tant que personnes physiques et 2 absents, dont un malade, 8 hommes et 2 femmes, tous âgés de plus de 60 ans et qui s'approchent tour à tour de la barre, crâne dégarni, cheveux blancs ou tempes grisonnantes. Des victimes et des témoins sont morts, eux aussi, rappelle la présidente dans son préambule, consciente en premier lieu des sentiments d'impatience et de frustration que ce procès implique, 10 ans presque jour pour jour après le retrait du Mediator du marché. Mais face aux multiples questions posées par ce scandale sanitaire, Sylvie Donis s'efforce de circonscrire le champ de compétences du tribunal. Certains se sont posé la question de savoir si ce procès était utile. Il appartient aux sociologues et aux citoyens de répondre à cette question, poursuit la magistrate. Le tribunal n'est pas non plus compétent pour dire combien de morts le Mediator a pu causer. Il est là pour dire le droit avec toute l'aridité que cela suppose. Avec aussi un rappel du principe de présomption d'innocence et cette citation empruntée à Mark Twain, le danger ce n'est pas ce qu'on ignore mais ce que l'on tient pour certain et ce qui ne l'est pas. Une première journée d'audience uniquement dédiée à l'organisation où le nom de chacune des parties civiles aura été cité dans cette grande salle Victor Hugo. Lecture fastidieuse mais dont on ne pouvait faire l'économie a estimé le tribunal. Plus de 2500 noms égrenés, plus d'une heure de lecture. La présidente propose à qui le souhaite de venir s'exprimer, mais aucune des victimes présentes ne s'est approchée de la barre.
Florence Turme avec Romain Lukiens depuis le Palais de Justice de Paris. Merci. Ce scandale du Mediator a d'emblée posé la question des liens étroits entre professionnels de santé et laboratoires pharmaceutiques. Et pour éviter les conflits d'intérêts, la loi garantit désormais une certaine transparence dans ces relations. Un texte de 2011 porté par le ministre de la Santé de l'époque, Xavier Bertrand. Tara Schlegel, bonsoir.
Bonsoir.
Tara, cette loi Bertrand a-t-elle finalement rempli ses objectifs?
En partie seulement, mais en partie quand même. Évoquons d'abord la lenteur de son application. Décembre 2011, vote de la loi Bertrand. Ses décrets paraissent seulement en 2013, mais sous une forme qui ne convient pas au Forum Indep. C'est une association qui lutte pour la transparence véritable dans le secteur médical depuis 15 ans. Sa vice-présidente Anne Chaillut.
Les décrets, quand ils sont sortis, en plus à notre grande consternation, étaient incomplets. C'est tout à fait volontaire, je le crains. Les décrets omettaient l'obligation de déclarer les rémunérations. Donc on ne déclarait que les avantages en nature dans la base et non plus les rémunérations des contrats qui lient un médecin en tant que consultant à un laboratoire pharmaceutique.
Car il y a bien deux types de liens. Les avantages en nature, invitations au restaurant, nuit d'hôtel pendant des congrès, des pots même offerts dans les hôpitaux, aux réunions de staff où l'on discute des prises en charge une fois par mois souvent, des prises en charge médicales. Tout ça, l'industrie le finance et on doit désormais le déclarer dans la base transparence.gouv.fr. Ça représente 300 millions d'euros par an. Mais comme le dit Anne Chailleux, l'autre part avait été oubliée par les premiers décrets. Le Formindep, son association, a donc saisi le Conseil d'État pour qu'il oblige, ce sera le cas en 2015, les pouvoirs publics à réécrire les décrets. Mais le gouvernement de l'époque a préféré tout reformuler. La transparence a été intégrée dans une nouvelle loi, la loi Touraine. Bref, ce n'est qu'en juillet 2017, alors que la loi Bertrand date de 2011, que ces fameuses conventions signées entre les laboratoires et les médecins sont apparues dans la base transparence.gouv.fr, Transparence Santé. Et là, ça représente 700 millions d'euros par an, Stanislas. Claude Maluret, le sénateur indépendant, a beaucoup travaillé sur la loi Bertrand, puis sur ses effets.
Vous aviez les séjours à Marrakech gratuits pour le médecin, sa femme et éventuellement ses enfants. Maintenant, vous avez les congrès à Miami qui sont justifiés, bien entendu. Mais bon, lorsqu'ils sont financés par les laboratoires pharmaceutiques, ces laboratoires ont, dans les lieux du congrès, une place en vue et c'est une façon de détourner, même si les pires abus qu'on voyait il y a quelques années ont un peu disparu, mais la pratique continue.
Alors parallèlement à la base transparence.gouv.fr, où beaucoup de choses apparaissent, même si elle est très incomplète, affirment les gens comme le Formindep, le Conseil national de l'ordre des médecins tient lui son propre registre et surtout il émet des avis, parfois négatifs, sur des demandes de signature de convention ou encore davantage en nature. Le docteur Dominique Bertrand préside la commission des médecins, des relations médecins-industrie au Conseil national de l'ordre.
Quand on émet un avis négatif, logiquement, l'industrie ne peut pas organiser ce qui est prévu.
Mais dans la vraie vie, ce n'est qu'un avis. Vie,
si c'est le cas, nous ne le savons pas, et à mon avis, ça doit être très faible. Oui, oui, de temps en temps, l'absence d'avis favorable implique, eh bien, ou le non-départ du médecin, même s'il a une intervention à faire, la non-organisation d'une activité ou d'un congrès, bien sûr, c'est à ça qu'on sert.
C'est à ça donc que sert cette commission du Conseil de l'Ordre qui se montre ici très optimiste. Un décret devrait bientôt, cela dit, transformer les avis qui sont sollicités par l'industrie du médicament en autorisation, demande d'autorisation du Conseil de l'Ordre.
Tara Schlegel, merci. Et retrouvez sur franceculture.fr l'article de Florence Turm sur les visages du médiateur, un livre de photos en noir et blanc qui donne un visage aux victimes du médicament. Vous avez volé mes rêves et ma jeunesse. Une petite phrase signée Greta Thunberg cet après-midi à New York. La jeune militante suédoise s'adressait aux dirigeants mondiaux qui participent au sommet mondial sur le climat en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Je vous propose de l'écouter.
You have stolen my dreams and my childhood.
Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. Et encore, je fais partie des chanceux. Les gens souffrent, les gens meurent, des écosystèmes entiers s'effondrent. Nous sommes au début d'une extinction de masse. Et tout ce dont vous pouvez parler, c'est de l'argent et du conte de fées d'une croissance économique éternelle. Comment osez-vous ?
Voilà un extrait du discours radical et plein d'émotions de Greta Thunberg, discours qui visait aussi Emmanuel Macron, présent à New York, le président français qui a participé aujourd'hui à une réunion sur l'Amazonie, réunion qui a permis de débloquer 500 millions de dollars pour la protection des forêts tropicales. Le reportage de Christian Chéneau.
Ils sont venus du Pérou jusqu'à New York pour faire entendre la voix des peuples autochtones de l'Amazonie. Trois représentants indiens en tenue traditionnelle ont lancé un appel au secours à l'occasion du lancement de l'Alliance pour la protection des forêts tropicales. Leur existence en dépend. En 50 ans, plus de 25% de l'Amazonie a disparu, a rappelé Emmanuel Macron. Mais lutter contre la déforestation ne va pas de soi. Le sujet est conflictuel. Le principal acteur, le Brésil, a décidé de boycotter l'événement. Le président français a choisi, lui, de minimiser cette absence.
On va se parler franchement, quels sont nos risques? Il y en a un premier, l'éléphant dans la pièce, ou plutôt celui qui n'y est pas, le Brésil. Tout le monde se dit comment vous allez faire sans le Brésil. Le Brésil est le bienvenu. Et je pense que tout le monde a envie de travailler avec le Brésil. Et moi je pense que ça viendra. Je pense qu'il faut avoir une démarche comme on l'a aujourd'hui, extrêmement inclusive, respectueuse de chacun. Et c'est l'esprit dans lequel on a lancé tout cela. Et j'ai bon espoir que les prochaines semaines et les prochains mois permettront d'avoir les solutions politiques qui permettent d'avancer.
D'autres pays amazoniens jouent le jeu, comme la Colombie, qui a déjà replanté des centaines de milliers d'arbres, a expliqué le président Iván Duque, tout comme le Chili, qui veut devenir un pays neutre en carbone d'ici 2030, grâce à une politique ambitieuse de reforestation.
Christian Cheneau, envoyé spécial à New York. L'Europe va-t-elle trouver une solution pour accueillir les migrants sauvés en Méditerranée ? C'est l'enjeu du sommet de Malte, qui réunit aujourd'hui les ministres de l'Intérieur de 5 pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, Malte et la Finlande. La Finlande qui assure la présidence tournante de l'UE. Alors après le départ de Matteo Salvini, le nouveau gouvernement italien a partiellement rouvert les ports de la péninsule aux navires des ONG. Mais Rome veut maintenant un accord qui garantit une répartition automatique des migrants. Bruce de Galzin, c'est une première victoire pour l'Italie. Un pré-accord de répartition vient d'être adopté à Malte.
L'Italie est très satisfaite de cet accord. Un accord à 4 pour le moment, France, Allemagne, Italie et Malte, mais qui pour la première fois est un accord européen sur l'immigration en Méditerranée, explique la ministre de l'Intérieur, Luciana Lamorgese. Elle détaille les deux grands principes.
Nous avons des résultats concrets avec le principe de rotation des ports d'accueil sur une base volontaire et avec la répartition automatique des migrants demandeurs d'asile dans tous les pays qui signeront cet accord.
L'Italie insistait pour que ce ne soient pas toujours les mêmes ports qui accueillent les migrants, mais seuls les volontaires le feront donc. Autrement dit, le principe du port le plus sûr et le plus proche reste la norme. L'Italie et Malte seront toujours en première ligne. Quant à la répartition des migrants, elle concernera les demandeurs d'asile. Chaque pays qui aura signé l'accord aura un quota de migrants. Ce sera à lui d'effectuer les premiers entretiens et il décidera alors si ces migrants peuvent bel et bien demander l'asile ou s'ils doivent être renvoyés chez eux. Avec cet accord, Rome estime que les migrants qui arrivent désormais en Italie arrivent en Europe. De New York, où il assiste au sommet sur le climat, le président du Conseil italien Giuseppe Conte a lui été très ferme. « Je garantis à tous les citoyens italiens, a-t-il dit, que nous n'accepterons aucun mécanisme qui pourrait inciter de nouveaux migrants à venir sur nos côtes. »
Bruce de Galzin, correspondant en Italie, merci. Revenons à présent sur la faillite de Thomas Cook, le plus ancien voyagiste au monde qui a mis la clé sous la porte cette nuit après l'échec des négociations avec les créanciers. Les autorités doivent maintenant gérer le rapatriement de 600 000 clients en vacances dans le monde, dont environ 10 000 Français. Quant aux 22 000 salariés de Thomas Cook, ils sont sous la menace d'un licenciement imminent. Les agences du voyagiste commencent à fermer. Exemple à Brighton, sur la côte sud de l'Angleterre, avec ce reportage d'Antoine Gignot.
Il y a sur la porte une simple feuille de papier. Avec ces mots, le bureau est définitivement fermé. Une annonce presque impossible à croire pour Jonathan. Il avait déjà fait sa valise pour partir en famille en direction de la Turquie.
Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce que je dois faire. Sur leur site internet, ils disent qu'on doit contacter les assurances. Mais moi, j'ai 4 enfants qui attendent de partir en vacances à Antalya. Je suis vraiment très déçu. On ne s'attendait pas du tout à ça. On espérait que le gouvernement donnerait l'argent qui manque à la compagnie. Ça va coûter plus cher de rapatrier tout le monde.
Car l'opération gigantesque déclenchée par le gouvernement pour ramener chez eux les centaines de milliers de voyageurs dispersés dans une soixantaine de pays pourrait coûter plus de 700 millions d'euros. Sur le trottoir, les proches des vacanciers viennent aux nouvelles, comme Paula, sa mère, devait rentrer ce matin.
Elle va bien, je viens de lui envoyer un message. Elle est en Tunisie, mais je ne sais pas exactement où. Ils sont en train de lui trouver un vol pour rentrer à la maison. Moi, je vais en Turquie tous les ans. J'ai fait mon voyage de noces avec eux. Ils sont fantastiques. Je suis très choquée et très triste.
À l'intérieur de l'agence, quelques employés rassemblent des affaires, un aspirateur, un sac avec des t-shirts publicitaires. La porte s'ouvre, certains sortent, les larmes aux yeux, et l'un d'eux confirme « Oui, on travaille bien ici. Enfin, on y travaillait jusqu'à ce matin. »
Antoine Gignot, correspondant au Royaume-Uni. Le Brexit et la chute de la livre sterling expliquent en partie la chute de Thomas Cook. Selon le négociateur européen Michel Barnier, il sera difficile en l'état de parvenir à un accord de sortie de l'UE avec le Royaume-Uni. La balle est dans le camp britannique, a ajouté Michel Barnier aujourd'hui lors d'un déplacement à Berlin. Au Maroc, des centaines de femmes se déclarent hors la loi dans un manifeste publié aujourd'hui dans plusieurs médias du royaume. Ces femmes entendent défendre leur liberté face à un cadre juridique qu'elles jugent obsolète. Elles affirment avoir déjà violé les lois qui interdisent les relations sexuelles hors mariage ou bien l'avortement. Un texte déjà co-signé par 490 femmes. Tout est parti de l'arrestation d'une journaliste incarcérée depuis 3 semaines. Les explications de Claude Guibal.
C'était le 31 août, près de Rabat. La journaliste Hadja Raissouni est arrêtée à la sortie du cabinet de son gynécologue. La jeune femme est avec son fiancé. Elle est accusée de relations sexuelles hors mariage et d'avortement illégal, un crime au regard de la loi marocaine qui peut lui valoir jusqu'à 2 ans de prison. Pour la réalisatrice Sonia Tarab, à l'origine de cette tribune rédigée avec la romancière Leïla Slimani, c'est l'arrestation de trop.
C'est très très important d'y aller très fort et de dire ben voilà, on est hors la loi parce que cette loi-là, elle est injuste, elle n'a plus lieu d'être. Et si vous voulez nous mettre tous en prison, ben allez-y, mettez tout le monde en prison, ben qui va rester ?
Si l'arrestation d'Hadja Raissouni, issue d'une famille d'opposants au régime, s'inscrit probablement aussi dans un contexte politique, les signataires de la tribune rappellent qu'avec 14 503 poursuites judiciaires l'an dernier pour relations sexuelles hors mariage et plus de 600 avortements par jour, c'est toute la société marocaine qui est potentiellement concernée.
La société marocaine aujourd'hui est divisée aussi entre une élite francophone plus ouverte, libérée, et une élite arabophone qui est très très conservatrice et plein de gens au milieu qui savent plus où être et qui être. Moi, ce que j'ai remarqué par rapport au message des femmes qui ont signé, c'est qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit « Nous, on est contre l'avortement, on est contre les relations sexuelles hors mariage, mais personne n'a le droit d'atteindre à la vie privée des gens, personne n'a le droit d'atteindre à l'intégrité morale et physique des gens. »
La tribune, relayée par le journal Le Monde, a été publiée par plusieurs médias marocains et son nombre de signataires ne cesse depuis de grimper.
Claude Guibal, merci. Retour en France avec le gouvernement qui s'attaque à une nouvelle niche fiscale. Elle concerne les personnes âgées qui bénéficient d'exonérations de cotisations sociales pour un emploi à domicile. Désormais, ces exonérations ne seront plus systématiques. Bonsoir Catherine Pétillon.
Bonsoir.
La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, l'a confirmé aujourd'hui sur LCI. Ce recentrage des déductions fiscales touchera les plus de 70 ans.
Oui, actuellement, tous sont totalement exonérés de cotisations patronales quand ils emploient une personne à domicile pour faire leurs courses ou leur ménage, par exemple. Cela représente 310 millions d'euros. C'est ce critère d'âge que veut supprimer le gouvernement en réservant les exonérations totales aux personnes dépendantes et handicapées. Les personnes de plus de 70 ans qui ne sont pas dans ce cas pourront se rabattre sur l'exonération de 2 euros par heure travaillée dont bénéficient déjà tous les particuliers employeurs. Au ministère du Travail, on explique que le critère de l'âge n'est pas pertinent et qu'il a tendance à favoriser des personnes aisées. Le supprimer est censé rendre le système, je cite, plus simple, plus lisible et plus juste. Notamment parce qu'il ne différenciera plus les retraités et les actifs modestes. Reste que le gouvernement n'a pas souhaité retenir de critères de revenus au risque de défavoriser les retraités les plus pauvres qui jusqu'ici bénéficiaient de cette exonération. D'où cette première interrogation, certains renonceront-ils à une partie de leurs aides à domicile ? Quand on touche à ce genre d'avantage fiscal ou social, cela a inévitablement un impact sur le travail au noir, a en outre regretté Christian Bourreau, le président de l'Union française des retraités. Enfin, être reconnu personne dépendante demande des démarches importantes et parfois difficiles, et nombreux sont ceux qui ne les font pas. L'adresse, le service statistique du ministère des Solidarités, estime entre 20 et 28% le taux de non-recours à l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie.
Catherine Pétillon, merci. La grève à la SNCF contre la réforme des retraites débute ce soir à 20h. Mouvement à l'appel de 2 syndicats, la CGT Cheminot et Sudrail. La compagnie prévoit 2 Intercités sur 5 en circulation, 3 TER sur 5 et 1 Transilien sur 2 en région parisienne. En revanche, le trafic TGV devrait être peu perturbé, affirme la SNCF. Et dans la capitale, la RATP s'attend à un trafic quasi normal. Elles sont 5 femmes djihadistes jugées depuis ce matin pour une tentative d'attentat contre Notre-Dame de Paris en septembre 2016. Mais la voiture piégée remplie de bonbonnes de gaz n'a jamais explosé. Ces 5 femmes originaires de la banlieue parisienne comparaissent devant la cour d'assises spéciale de Paris. Un procès que suit pour nous Antoine Marette.
L'histoire d'Inès Madani, c'est celle d'une adolescente mal dans sa peau qui n'a jamais trouvé sa place. Cette 4e d'une famille de 5 filles est constamment ramenée à son poids par sa mère dépressive qui la compare à ses sœurs qui sont minces. Inès devient garçon manqué, se rapproche de son père. Ses sœurs la décrivent comme protectrice, naïve, rancunière et têtue. Elle veut toujours avoir le dernier mot. Sa mère la considère intelligente, mais influençable, loyale, tient à ajouter son père. Inès obtient le brevet des collèges, souhaite ensuite se diriger vers le métier d'auxiliaire de vie. Sauf qu'Inès a des problèmes de dos incompatibles avec cette profession. Elle est donc orientée vers la pâtisserie, sans succès. Son rapport à la religion se limite jusqu'au collège, aux quelques fêtes de famille, qui, d'origine nord-africaine à une pratique modérée de l'islam. Inès consomme de temps à autre des stupéfiants et elle a même un petit penchant pour le rhum. Et puis il y a cette rencontre avec Anissa en 2014, une amie de sa grande sœur, une fondamentaliste musulmane qui lui propose d'aller avec elle faire le djihad. Inès refuse, mais son rapport à la religion change. Le procès va tenter de déterminer notamment jusqu'à quel point cette rencontre a été déterminante dans le parcours d'Inès.
Antoine Marette depuis la cour d'assises spéciale de Paris. Le temps demain, pluvieux et venteux sur la moitié nord, nuageux au sud. Les pluies seront soutenues le matin des Pays de la Loire à la Normandie. La perturbation gagnera l'est du pays en cours de journée. Au sud, les précipitations seront faibles et même inexistantes sur les régions méditerranéennes. Température minimale de 8 à 19 degrés du nord au sud. Les maximales oscilleront entre 18 et 26 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.